Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons du nouveau combat dans lequel se lance la communauté internationale, éliminer la pauvreté dans le monde d'ici à 2030, faire en sorte que pas un être humain ne vive avec moins $1,25 par jour, un objectif qui devrait être entériné par une grande conférence internationale sous l'égide des Nations Unies au mois de septembre prochain. Aujourd'hui, rappelons-le, environ 1 milliard de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de ces gens sont en Afrique. Alors comment faire pour améliorer leur niveau de vie? Comment faire pour éliminer la pauvreté de la planète en 15 ans? Est-ce un objectif tenable et réaliste? Quels sont les obstacles à surmonter? Telles sont les questions que je vais poser aux 4 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Akinwumi Adesina.
Et bonjour.
Akinwumi Adesina, vous êtes le ministre de l'Agriculture du Nigeria. Vous occupez ses fonctions depuis 3 ans et demi dans le gouvernement de Goodluck Jonathan, qui quitte donc ses fonctions dans quelques semaines. Vous vous décrivez comme un économiste du développement. Vous êtes à Paris et dans ce studio dans le cadre de la campagne que vous menez pour accéder à la présidence de la Banque africaine de développement, dont le nom du nouveau président sera connu à la fin du mois de mai. J'ai assisté hier à la conférence de presse que vous avez donnée dans un grand hôtel parisien, et vous avez beaucoup insisté sur vos origines modestes. La pauvreté, avez-vous dit, je connais, ce n'est pas quelque chose d'abstrait pour moi. Pourquoi ?
Oui, parce que moi, je sors de la pauvreté. Mon père avait travaillé dans les champs avec mon grand-père. Ils ont gagné 100 par jour en travaillant là-bas. Ils m'avaient dit que l'agriculture ne paye pas. Donc moi, quand je suis devenu le ministre, je dis, bon, il faut totalement changer l'agriculture. Il faut créer de l'espoir. C'est ce qu'on avait fait au Nigeria. On a totalement changé le secteur pour devenir un secteur qui de richesse.
On va en parler tout à l'heure dans le cadre de l'émission. Laissez-moi vous présenter les autres intervenants de ce programme. Bonjour, Cécilia Garcia Penalosa.
Bonjour.
Cécilia Garcia Penalosa, vous êtes en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre de l'école d'économie Aix-Marseille. Vos recherches portent essentiellement sur le rapport entre croissance et inégalité des revenus. Cécilia Garcia Penalosa, vous venez d'entendre le bref récit qu'Akinwumi a Adesina a fait de sa vie. Est-ce que vous diriez que la lutte contre la pauvreté est la question économique centrale au niveau mondial?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et quand on parle des pauvretés, on doit parler des choses, on doit parler des distributions, on doit parler des croissances. Je pense que ce seront les mots-clés aujourd'hui.
Avec nous également Manon Aubry. Manon Aubry, vous êtes chargée de plaidoyer taxes et inégalités au sein de la branche française de l'ONG Oxfam. Vous avez vécu 2 ans en RDC, en République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC, c'est un pays où, selon vous, la pauvreté a reculé ces derniers temps?
C'est une excellente question et elle a une partie extrême de la pauvreté à reculer en RDC, mais on assiste quand même à un creusement des inégalités, et si la partie extrême se réduit, il y a quand même un tassement autour d'un certain niveau de pauvreté qui veut dire que le combat est loin d'être gagné.
Alors j'accueille aussi dans ce studio le chercheur Denis Cognot. Denis Cognot, vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris. Vos thèmes de recherche sont le développement économique à long terme, les inégalités et l'histoire de l'Afrique, et je lis sur votre page internet. Le succès de cette lutte contre la pauvreté, il se jouera essentiellement en Afrique?
Oui, certainement, oui. Enfin, lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution et le succès de ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire et la partie de l'objectif du millénaire consacrée à la pauvreté, l'essentiel a été acquis sur les autres continents, et maintenant l'essentiel du combat à l'horizon 2030 va se jouer en Afrique.
Alors, au cours de cette émission, nous entendrons des reportages de nos correspondants à La Paz en Bolivie, Razano Mahmoud, de Coralie Pierret à Dakar au Sénégal, et de Gaël Lucia Berdou à Islamabad au Pakistan. Alors, à mon mon avis, c'est un terme barbare comme seuls peuvent en produire les grandes organisations internationales. Ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement ont été lancés il y a 15 ans. Leur objectif, c'était de réduire la pauvreté dans le monde. Akinwumi Adesina, est-ce que ces objectifs du millénaire ont été atteints, selon vous, par exemple au Nigeria?
Oui, au Nigeria, le premier but en ce qui concerne la pauvreté extrême et la faim a été atteint au Nigeria. Je viens de recevoir même une lettre de ça de la part de FAO et de World Food Programme. Mais c'est parce que nous avons produit au Nigeria 21 millions de tonnes de produits agricoles. On avait chuté l'impôt de Nigeria, l'importation de produits alimentaires, de 3,1 trillions de dollars en 2011 jusqu'à 634 milliards de naira, je peux dire, en 2014. Donc, on avait pu créer 3 millions d'emplois dans le secteur rural. Donc, ça, c'est très important. Je peux dire quelque chose. L'Afrique, aujourd'hui, détient de 75% de toutes les terres arables disponibles dans le monde. Mais quand même, nous avons 17% de notre population qui vit dans le secteur rural. Donc, il faut complètement débloquer cette potentialité pour pouvoir faire sortir les gens dans les millions de la pauvreté en Afrique. Très, très important. Parce que, comme mon frère vient de le dire, bon, nous savons...
Vous parlez de Denis Kogno, là.
Denis Kogno, oui. Ce que vous venez de le dire, au niveau de la croissance économique que nous avons en Afrique. Mais cette croissance, c'est pas équitable. Il y a beaucoup d'inégalités à l'intérieur du pays, inégalités entre les différents pays. Il faut avoir en Afrique les croissances avec la prospérité partagée. On ne peut pas supporter une situation où il y a 44% de notre population qui vit dans la pauvreté extrême. La pauvreté ne doit pas devenir l'avantage comparatif de l'Afrique.
Est-ce que ces objectifs du millénaire, ils ont été atteints complètement, Manon Ombry, selon vous?
Je pense qu'on est encore relativement loin du résultat escompté. En effet, il y a des avancées importantes sur le front de la pauvreté, mais comme ça a été précisé avant, il y a encore un gros travail à mener du côté de l'Afrique en particulier.
Mais c'était quoi ces objectifs, Denis Kogno?
Alors précisément, les objectifs donc qui ont été fixés par une grande conférence aux Nations Unies en 2000 consistaient à diviser par deux pour ce qui concerne la pauvreté monétaire, la proportion de gens qui vivaient sous le seuil de 1 dollar, tel que mesuré en 1990 à l'horizon 2015, c'est-à-dire cette année, d'accord. Et donc ça, globalement, cet objectif de division par deux du taux, ce qu'on appelle le taux de pauvreté, c'est la proportion de gens qui vivent sous ce seuil de 1 dollar par jour et par habitant, ont été atteints au niveau du monde entier, hein, ont été atteints, plus qu'atteints, et même largement dépassés en Chine, par exemple, relativement atteints en Asie du Sud, hein, mais pas atteints du tout en ce qui concerne l'Afrique. Donc ces objectifs étaient fixés globalement au niveau du monde entier, mais évidemment on peut aussi les décliner par pays et par continent. Donc dans le cas par exemple, donc si maintenant on se place aujourd'hui, on est à peu près, selon les mesures de la Banque mondiale, qui quand même repose sur des données qui sont quand même lacunaires, hein, et en particulier dans le cas de l'Afrique et notamment dans le cas du Nigeria également, on est à peu près à 20% de pauvres dans le monde entier, et en Afrique on est à peu près autour de 45-50%.
Les données au Nigeria, les statistiques sont lacunaires, incomplètes. Ce que vous nous dites, que la pauvreté était résorbée, ça n'est pas vrai?
Non, c'est vrai, parce que c'est la pauvreté extrême. Ça, c'est de la part de la FAO. Mais il y a plus que ça. Il faut avoir la situation de la participation des filles de l'école, l'égalisation autonomisation de femmes. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, c'est pas seulement ça. Mais je vous dis quelque chose. C'est très important pour l'Afrique parce que si l'Afrique voulait atteindre ses objectifs, il faut mobiliser plus de ressources dans notre continent. C'est pas simplement dépenser sur les ressources qui viennent dehors de le continent. C'est la raison pour laquelle moi, je pense qu'il faut mobiliser les ressources. Mais les ressources sont comme approvisionnement de l'eau, les situations sanitaires, les situations pour construire de l'école. C'est très important. Et l'infrastructure, c'est fondamental pour pouvoir faire le progrès dans ce sens.
Manon Ombry pour Oxfam.
Juste une petite précision pour donner un exemple sur les chiffres précédents qui ont été avancés, sur l'ampleur des disparités en termes de réduction de la pauvreté. Si on prend un pays comme la Zambie, par exemple, le taux de pauvreté a en fait augmenté de 65% à 74%, ce qui est un chiffre énorme, de 2004 à 2013. Dans le même temps, il y avait une croissance relativement élevée, entre 3 et 5% en fonction des années. Et donc, et c'est le sens de la campagne que l'on mène à Oxfam, c'est que derrière les taux de croissance se cachent en fait des disparités énormes et une augmentation des inégalités. Si les fruits de la croissance ne sont pas partagés, le résultat peut être négatif pour la réduction de la pauvreté. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans les cadres, on va peut-être en parler, de la discussion sur la négociation des prochains objectifs et en particulier le financement des prochains objectifs, qui est un enjeu majeur, en particulier pour les pays africains.
Cécilia Garcia-Penalosa, c'est votre avis? On a beaucoup, beaucoup avancé dans cette réduction de la pauvreté et de manière quasiment égalitaire partout, hormis en Afrique?
Je suis un peu plus pessimiste par la question de l'Afrique. Vous avez dit que fixer des objectifs très visibles peut être dangereux. Et je pense que ça a été le cas ici, parce qu'on s'est focalisé sur l'idée de compter le nombre de personnes qui sont en dessous d'un seuil de pauvreté. Et là, c'est vrai, on a vu une amélioration absolument énorme au cours des derniers 25 ans. Mais on oublie que la pauvreté peut se mesurer de différentes façons. Et par exemple, on peut essayer de regarder dans les groupes des individus pauvres, au-dessus d'un dollar 25, qui sont les plus pauvres et qu'est-ce qui s'est passé. Et là, le résultat n'est pas du tout satisfactoire. Donc il y a des estimations du niveau de vie des plus pauvres entre les pauvres. Et on trouve qu'en 90, c'était 0,67 dollars, donc 67 centimes. En 2012, les estimations les plus récentes, dont 68 centimes. Donc oui, plus de personnes ont passé au-dessus du seuil, mais les plus pauvres dans ces groupes-là semblent pas avoir fait de progrès.
Alors, on va quitter quelques instants l'Afrique pour aller en Amérique latine, pour y voir quels sont les moyens qui sont utilisés pour lutter contre la pauvreté. Voilà un exemple en Bolivie, pays qui était il y a peu le plus pauvre du continent latino-américain, mais qui connaît depuis quelques années un véritable boom économique sous la houlette du président Evo Morales, un président indigène et socialiste. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Reza Nourmahmod à La Paz.
Warisata, un village indigène Aymara sur les rives du lac Titicaca. La population paysanne est habituée à vivre de la pêche, de l'élevage de lama et de la culture de pommes de terre et de maïs. C'est ici qu'a été fondée il y a 6 ans l'une des 3 universités indigènes du pays. L'objectif, ouvrir l'accès des études supérieures aux plus défavorisés et briser le cercle de la pauvreté. Lucio Choquehuanca, le recteur de l'université.
Il y a peu, c'était encore un rêve irréalisable, mais il est devenu réalité petit à petit. Tout le peuple aymara est satisfait et heureux. Et comme l'a dit notre président, nous avons besoin de diplômés.
Baptisé Tupac Katari, du nom d'un héros amérindien qui combattit les colons européens, l'université propose un enseignement bilingue espagnol aymara en agronomie, textile ou encore médecine vétérinaire à environ 900 étudiants. Giovanna Ticona, 21 ans, en fait partie.
Il y a un véritable changement pour nous. Aujourd'hui, même nous, les femmes indigènes, nous pouvons étudier. Avant, nous étions discriminées. Politiquement et économiquement, la situation a beaucoup évolué. Le gouvernement actuel veut que nous soyons tous égaux. Nous sentons que nous sortons de la pauvreté.
Avec une croissance annuelle à 5% de moyenne depuis 2006, la Bolivie se porte économiquement bien et la population en profite. Grâce notamment à une redistribution financière directe sous forme de primes aux secteurs les plus fragiles et une hausse régulière du salaire minimum qui est passé en 8 ans de 56 euros à 160 euros mensuels. Dans le même temps, le gouvernement a réussi à réduire le pourcentage de la population vivant en situation d'extrême pauvreté de 28 à 18%. Le ministre de l'économie, Luis Arce.
Grâce à la stabilité économique, le niveau de vie des pauvres augmente. Et si vous ajoutez à cela de l'emploi, des pensions, une hausse des salaires et des politiques sociales, alors vous augmentez aussi le nombre de gens plus riches. C'est comme cela que fonctionne notre modèle.
Réélu il y a 6 mois dès le premier tour pour un 3e mandat à la tête du pays, Evo Morales a affiché son nouvel objectif, l'éradication de l'extrême pauvreté dans le pays d'ici à 2025.
Aquilumi Adesina, la Bolivie, c'est très très loin du Nigeria, mais est-ce que vous vous y retrouvez un peu dans ce reportage?
Je pense que c'est une expérience qui est très importante. Si vous voyez ce que je viens de dire, c'est l'importance de la financement direct pour les gens qui sont pour les pauvres. Et c'est pour dire en anglais, c'est ce qu'on appelle conditional income transfer. C'est très très important parce que pour les pauvres, si vous voyez les pauvres par exemple, ils dépensent environ 60%, 70% de tous leurs revenus sur le nourriture, l'alimentation. Et donc, si on peut réduire ça, ça veut dire que bon, ils ont le ressources disponibles pour faire autre chose, construire leur maison, aller à l'école pour les enfants, la santé et tout cela. Je pense que ça, c'est important. Mais je voulais aborder une autre perspective, et ce qui concerne seulement, particulièrement les jeunes. Le niveau de le chômage aujourd'hui, c'est très élevé. Au niveau de l'Afrique, aujourd'hui, nous avons 30 millions de gens qui ont dans le marché de l'emploi, ils ne peuvent pas trouver de l'emploi. Et 70% des gens qui viennent de l'école en Afrique, dès qu'ils viennent, ils travaillent dans les secteurs où ils ne gagnent pas beaucoup. Donc, c'est ça qui donne beaucoup de la fragilité pour l'Afrique. Donc, je crois que pour les buts de la développement inclusive, il faut travailler sur comment on va développer des opportunités d'emploi pour les jeunes, c'est très important.
Alors, Denis Cognot, dans ce reportage, Rezano Mamon nous explique que la Bolivie veut aller plus vite que la musique, en quelque sorte, éliminer la pauvreté d'ici à 2025 et pas 2030. C'est réaliste ?
Dans le cas de la Bolivie, je suis pas sûr que je vais me prononcer. La Bolivie a quand même des points de comparaison avec pas mal de pays africains. Une première caractéristique, c'est le niveau des inégalités. Et ça, c'est partagé par beaucoup de pays pauvres africains également. Dans le cas de la Bolivie, caractérisé par aussi une division ethnique, d'une certaine façon, hein, vous avez rappelé que le président Evo Morales est le premier président indigène, ce qui se retrouve pas exactement sous les mêmes formes dans le cas des pays africains. Mais la deuxième caractéristique aussi, c'est que la Bolivie bénéficie de revenus miniers, donc c'est ça aussi qui lui permet d'espérer à l'heure d'aujourd'hui, enfin d'avoir acquis jusqu'à maintenant un certain niveau de redistribution sous cette nouvelle présidence. Maintenant, l'évolution des cours des produits miniers à l'heure d'aujourd'hui est beaucoup moins favorable que dans les 10 dernières années. Et donc, on peut s'interroger sur la capacité de pays comme la Bolivie, mais aussi comme le Nigeria, à tenir ses objectifs si, d'aventure, les revenus miniers dont bénéficient ces pays n'étaient pas au rendez-vous.
Cecilia Garcia-Penalosa, est-ce que c'est les revenus miniers, les ressources du sous-sol, qui sont le principal moteur de réduction de la pauvreté dans le monde? Il y a l'exemple de la Chine, par exemple. Ça n'est pas la Chine a réussi à produire de la croissance hors de cette question des matières premières.
Oui, donc je ne pense pas du tout que ce soit ces types de revenus qui sont nécessaires pour la réduction de la pauvreté. Et quand on regarde l'Afrique, on voit très clairement que les pays avec des revenus miniers sont plus riches, mais que les parcours en termes de pauvreté a été très proches dans les pays avec des ressources minières que dans les autres pays. Donc, ce qui est un ambition pour, ce qui est nécessaire pour la réduction de la pauvreté, c'est de la croissance. Si la croissance vient de l'exploitation des ressources naturelles ou de la création d'une industrie à bas coût, comme c'est le cas de la Chine, ça peut avoir le même effet.
Manon Aubry?
Juste un petit commentaire sur l'importance de et le rôle que joue en particulier le secteur minier, qui est un secteur sur lequel nous travaillons aussi particulièrement et regardons aussi la négociation des contrats miniers et dans quelle mesure ils se font au bénéfice des États qui sont récepteurs et qui accueillent ces ressources et qui sont une potentielle voie de développement. Je pense que c'est un enjeu très important et aujourd'hui, quand on regarde à l'échelle globale, les grosses multinationales ont un taux d'imposition effectif de l'ordre de 5 à 7% selon les multinationales, et c'est particulièrement vrai pour les industries extractives qui jouent entre leurs différentes filiales au niveau international de telle manière à réduire leur taux d'imposition et à réduire leur contribution au budget du pays. Et donc réduire la contribution au budget du pays, c'est aussi réduire la possibilité et les moyens pour ces pays-là de financer des services essentiels, comme on a entendu dans le reportage, qui sont de l'ordre de avoir une éducation gratuite et universelle, possible, de même pour les soins de santé, etc. Et donc c'est un enjeu aujourd'hui majeur, dans quelle mesure les entreprises vont contribuer à travers une imposition juste au financement des services essentiels.
Eh bien, c'est la fin de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré à la lutte contre la pauvreté. Nous nous retrouvons dans 3 petites minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre la pauvreté et de la volonté de la communauté internationale de ne plus voir personne sur la planète vivre avec moins $1,25 d'ici à 2030. Est-ce réaliste? Est-ce faisable? Question posée aux 4 invités qui sont autour de ce micro. Akinwumi Adesina, ministre de l'Agriculture du Nigeria et candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, qui nous quittera malheureusement en cours d'émission. Cecilia Garcia Peñalosa, professeur à l'école d'économie d'Aix-Marseille. Denis Cognot, professeur lui aussi mais à l'école d'économie de Paris. Et Manon Aubry, chargée de plaidoyer pour l'ONG Oxfam. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu les progrès qui ont été faits depuis 15 ans dans la lutte contre la pauvreté, des progrès relativement importants, même si vous, Cecilia Garcia Peñalosa, vous en doutez un peu. Mais est-ce que c'est parce que ces progrès ont été importants que la suite sera facile, Cecilia Garcia Peñalosa?
Non, je pense que la suite deviendra plus difficile, parce que comme je l'ai dit avant, faire monter celui qui a $1,20 au-dessus d'$1,25, c'est plus facile que faire monter celui qui n'a que 65 centimes. Le deuxième problème, et on n'a pas beaucoup parlé de ça, est que certains des objectifs du millénium n'ont pas été atteints. Et là, on peut parler de l'éducation universelle et l'accès à l'éducation primaire, mais aussi de l'accès des femmes à la santé et à l'éducation. Et donc, on a un retard énorme sur ces deux sujets, et ces deux sujets me semblent fondamentaux pour réduire, dans les années à venir, la pauvreté extrême. D'un côté, le monde exige des qualifications de plus en plus. On parlait de la Chine, on parlait de l'Afrique. L'industrialisation qui a commencé à avoir lieu s'est basée sur une main-d'œuvre déformée. On peut imaginer que ça ne sera pas le cas dans les deux décennies à venir. On parle.
C'est-à-dire.
Donc, en Chine, on a eu une croissance qui était dérivée de la production à très bas coût. Ça commence à changer. L'industrie chinoise exige des qualifications de plus en plus importantes.
Des compétences
de plus en plus importantes. Si on n'a pas un accès universel à l'éducation, on n'aura pas une force de travail capable de répondre à ces demandes. On trouve la même chose en Afrique. Une grosse partie de la croissance africaine vient de l'investissement étranger. En partie chinois, qui a eu lieu dans beaucoup de pays et qui a utilisé jusqu'à aujourd'hui une main-d'œuvre très formée. Si on n'a pas un niveau d'éducation, on ne pourra pas répondre à la demande que cette industrie va faire quand il y aura une expansion.
Akinwumi Adesina, c'est votre avis aussi, un déficit de compétences en Afrique?
Je crois que c'est très important parce que vous voyez aujourd'hui en Afrique, nous avons 30 millions de gens qui rentrent dans le marché de l'emploi. Ils vont pas
trouver tous les ans.
Tous les ans. Mais il faut créer, par exemple, en Afrique, 100 millions d'emplois chaque 10 ans. Donc ça veut dire que bon, c'est pas simplement de créer de l'emploi. Il y a un aspect qui est la compétence et la raison. Parce que les gens qui dans l'école, ils n'ont pas la compétence. Il faut vraiment le perfectionnement de cette compétence. Ce qui est très, très important. Mais je voulais aussi ajouter une chose qu'elle vient de dire au niveau de la secteur.
Vous parlez de Manon Aubry.
Au niveau du secteur minéraux en Afrique, c'est très important. C'est la fuite de capitaux dans l'Afrique. Par exemple, tous les ressources naturelles qui ont été découvertes en Afrique, total 82 trillions de dollars. Mais l'Afrique perd 60 milliards de dollars chaque an pour fuite dans le secteur, parce qu'il n'y a pas de transparence, donc comment les gens gèrent le secteur minéraux. Donc il faut que il y a la transparence, il faut que l'espace fiscalité au niveau de la négociation de ce secteur se fasse.
Revenons au Nigeria. Vous, quelles sont les stratégies de lutte contre la pauvreté que vous avez mis, par exemple, en action dans les zones rurales du Nigeria dont vous avez eu la responsabilité ces dernières années?
Ce que nous avons fait au niveau rural, c'est simplement pour l'agriculture. Il y a l'aspect d'augmentation de la productivité et de la distribution des semences s'est améliorée, et aussi avec les engrais pour les paysans. C'est ce que nous avons fait avec le général très bien. Mais il y a aussi l'aspect de la malnutrition. La malnutrition, c'est très important aussi. C'est pas simplement une question d'avoir la nourriture. Il faut s'occuper de la malnutrition. Nous avons commencé à faire la diversification des femmes, d'avoir, par exemple, le soja, d'avoir accès à l'argent pour les femmes, et aussi tous les minéraux nécessaires pour les enfants, d'avoir, c'est très important. Donc, je pense qu'en ce qui concerne la pauvreté, il faut résoudre la pauvreté au niveau rural en utilisant l'agriculture productive et de accroître le niveau de revenus, mais aussi il faut créer des emplois de qualité, la qualité dans les lieux urbains, ce qui est très important aujourd'hui
dans les villes
parce qu'il y a tellement d'exodes ruraux vers les villes, mais les gens arrivent là-bas, ils trouvent pas le travail. Donc il faut travailler dans deux sens là.
Manon Aubry, vous voulez réagir à ce que disait le ministre?
Deux petits commentaires. Le premier, c'est sur la première partie de l'intervention précédente sur la question de l'éducation. C'est aujourd'hui en effet un enjeu majeur qui n'est pas atteint. Et face à ça, la réaction différentes organisations internationales et de beaucoup d'États de par le monde, c'est un vent de privatisation d'un service essentiel qu'est l'éducation. Et je me permets de m'adresser directement à vous, Monsieur le Ministre, puisque vous êtes candidat à la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement a encouragé très fortement il y a quelques mois, par un statement officiel,
par une déclaration officielle, à
la privatisation de l'éducation, que davantage d'acteurs privés s'engouffrent dans ce marché-là, qui est aujourd'hui devenu un marché. Et on a des écoles à bas coût qui ne cessent de se développer, qui sont soi-disant des écoles que les personnes à bas revenus peuvent financer. Or, ça représente souvent une part non négligeable de leur revenu, voire la totalité de leur revenu. Et puis, en plus, on a derrière des acteurs privés qui font du profit sur un service essentiel. Mon deuxième commentaire était sur, en effet, ce chiffre qui est important, c'est entre 50 à 60 milliards aujourd'hui de dollars qui quittent l'Afrique alors qu'ils devraient rester en Afrique, qui devraient être imposés en Afrique. Et on estime qu'à peu près 65% de ce volume-là est dû à la fraude des multinationales. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que nous, à Oxfam, une grande partie de notre travail, c'est sur la réforme des règles fiscales au niveau international, dont les discussions aujourd'hui se font principalement dans le cadre de l'OCDE, et on souhaite qu'elles soient véritablement faites dans un cadre plus légitime, notamment au niveau des Nations Unies, plutôt que l'OCDE, c'est le club des 34 pays les plus riches du monde et qui continue à défendre des intérêts qui ne sont pas ceux des pays, et notamment en Afrique, qui accueillent des ressources importantes et qui pourraient bénéficier de ressources beaucoup plus essentielles.
Une petite réponse à Manon Aubry, à Dessina, sur cette histoire de privatisation des formations.
Et je pense que sur le marché de l'éducation, il faut avoir la diversification. Le secteur privé, c'est très important aussi de ça. Et il y a le secteur public. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'éducation de qualité. Il faut aider les gens qui sont pauvres, d'avoir la subvention nécessaire de la part de l'État pour pouvoir participer dans les institutions d'éducation. Donc, je vois pas les problèmes d'avoir les secteurs privés dans l'éducation. Au Nigeria, il y a plein des institutions qui sont là. C'est pas seulement les secteurs publics qui doivent faire l'éducation en Afrique. Mais ce qui est très important, c'est que d'avoir les types de formation qu'il faut sur le marché, pour d'avoir les subventions pour les gens qui sont pauvres pour pouvoir participer dans l'institution d'éducation.
Alors on part au Sénégal, à Thiès, où de jeunes ingénieurs ont fait le pari des nouvelles technologies pour lutter contre la précarité et la pauvreté. Comme dans de nombreux pays de la sous-région, le secteur informel représente une part importante du produit intérieur brut. Le secteur informel qui rime souvent avec pauvreté. C'est pourquoi l'équipe de cette entreprise, Genius Family, a développé des logiciels de gestion simples pour aider les petits commerçants à mieux s'organiser, à mieux rentabiliser leurs revenus et donc à sortir à terme de la précarité. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Coralie Pierret à Dakar.
Les locaux sont sobres, quelques affiches de bureaux. 5 jeunes diplômés en informatique Bonjour. Et en marketing ont les yeux rivés sur leur écran d'ordinateur. Il y a 2 ans, cette petite équipe a monté Ndiarté, un logiciel de gestion simplifié, accessible sur ordinateur ou sur smartphone.
Le défi, c'était partir d'un besoin qui était latent, et de créer quelque chose de positif.
Abdoulaye Diao, cofondateur de l'entreprise.
On est parti d'un constat que les applications qui viennent d'ailleurs ne correspondent pas à tous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est plus des applications sur mesure, adaptées à notre population. On privilégie le secteur qui a été mis en rade quelque part. Parce que quand on parle de nouvelles technologies, en général, ce sont les gens qui ont fait l'école, qui ont fait une certaine formation, qui puissent l'utiliser. Nous, on prend en compte ceux qui sont dans le secteur informel et on leur permet d'utiliser des applications très simples et on les accompagne pour qu'ils grandissent et qu'ils puissent utiliser à long terme une application qui est plus compliquée.
Au marché Moussanté, Rabanne gère une quincaillerie générale. Dans son entrepôt de fortune, il vend pêle-mêle du bois, du ciment, du fer. Sur son bureau trône son ordinateur relié à Internet, son imprimante et son smartphone dernière génération.
Ndiarté, c'est mieux que le stylo ou les registres, par exemple. J'ai déchiré mes feuilles parce que le logiciel est plus efficace et plus performant. Maintenant, je peux travailler avec tout le monde, embaucher, avoir confiance, car tout est inscrit sur l'ordinateur.
N'importe qui. Et est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent grâce à ce système ?
Oui.
Ça change tout. Si un client te doit de l'argent, par exemple, tu le sais. Son nom apparaît, ce qu'il te doit, tout est dans le logiciel. C'est la même chose avec le fournisseur. Et à la fin de la journée, tu sais ce que tu as gagné et ce que tu as dépensé.
Dans ce quartier de Thiès, plusieurs commerçants utilisent désormais Ndiarté. L'objectif, les aider à se formaliser, explique Abdoulaye Diao.
Comme les maisons et les boutiques sont mélangées, tu vois, tu as plein de pylônes où il y a la connexion qui est déjà là. Juste que peut-être c'est de leur permettre d'avoir accès à ça, de leur faire goûter à ça. C'est juste ça le défi.
Prochaine étape pour Genius Family, développer une application mobile pour toucher plus de petits commerçants. Car si tous les Sénégalais ne possèdent pas d'ordinateur, pratiquement tous possèdent un téléphone portable.
Donc Genius Family, c'était un reportage à Dakar de Coralie Pierret. C'est ça la solution, Denis Cognot, créer des entreprises locales? Plus que ces espèces d'initiatives internationales destinées à drainer des flux, à mettre en place des politiques.
Les deux sont pas incompatibles. Enfin, je pense que ce que met en exergue le reportage, c'est l'importance de l'accès à l'information et aussi à la formation professionnelle pour ces petits entrepreneurs dakarois. Et il va de soi que cette dimension de la réduction de la pauvreté est très importante. Mais enfin, le phénomène de réduction de la pauvreté, on a déjà parlé là de la dimension éducative en particulier. Le phénomène de la pauvreté est multidimensionnel. Donc même si pour ce qui a motivé l'introduction de cette émission, la réduction de la pauvreté monétaire à l'horizon 2030, l'éradication de la pauvreté monétaire, c'est une des dimensions. Elle est évidemment complémentaire des autres dimensions. L'accès à la formation, le ministre parlait tout à l'heure de l'accès aux intrants agricoles. Tout ça fait partie de la réduction de la pauvreté, y compris dans sa dimension monétaire.
Le ministre Akinwumi Adesina, je le précise, qui, pendant la diffusion de ce reportage, a été obligé de s'éclipser pour aller vers des rendez-vous ministériels, disait-il, qui concernent sa campagne pour la présidence de la Banque africaine de développement. C'était Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la volonté internationale d'éliminer toute pauvreté sur la planète à l'horizon 2030 avec 3 invités dorénavant. Denis Cognot, professeur à l'école d'économie de Paris. Cécilia Garcia-Pinolosa, professeur à l'école d'économie d'Aix-en-Provence. Et Manon Aubry, chargée de plaidoyer à Oxfam. Alors, réduire la pauvreté, a fortiori l'éliminer, c'est par principe réduire les inégalités. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, Manon Aubry ? Est-ce qu'on réduit les inégalités ?
Malheureusement, le constat, il va dans l'autre sens. Dans le même temps, on réduit une partie de l'extrême pauvreté, on augmente les inégalités, et en particulier les inégalités au sein des pays. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 dans le monde vivent dans des pays dans lesquels le fossé entre les plus riches et les plus pauvres s'est creusé ces 30 dernières années. Et ces pays, ce sont des pays assez variés, à la fois en Afrique, le Sénégal en fait partie, même s'il y a eu des initiatives assez importantes de réduction d'investissement dans une couverture maladie universelle au Sénégal, par exemple, pour rebondir sur le cadre sénégalais. Mais c'est aussi une des inégalités qui sont se creuse dans nos contextes, en France, aux États-Unis. Et donc c'est un phénomène qui aujourd'hui peut saper tous les efforts de lutte contre la pauvreté si on ne le prend pas sérieusement. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à le dire, même au plus haut niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il y a un consensus sur le fait qu'il faille lutter contre les inégalités. Après, c'est sur les pistes de réponse où parfois on peut avoir des divergences sur la manière d'adresser ces inégalités.
Denis Cognot ?
Oui, enfin, il faut rappeler que l'objectif là d'éradication de la pauvreté monétaire à l'horizon 2030, donc, a été fixé sur la base de calculs d'un économiste qui s'appelle Martin Ravalian, qui est ancien directeur de la recherche de la Banque mondiale, dont Cecilia Garcia Peñalosa rappelait une partie des travaux, notamment sur la pauvreté très extrême récent. Et donc, cet objectif qui est véritablement, selon même les dires de leur auteur, hein, très optimiste, et en même temps pas totalement invraisemblable, parce qu'il consiste à prolonger grosso modo les tendances qu'on a observées dans les 10 dernières années. Mais simplement que ces tendances dans les 10 dernières années étaient particulièrement favorables par rapport aux décennies qu'on a appelées perdues, qui les avaient précédées. Et donc cet objectif qui consiste à éradiquer la pauvreté, il est tenable si on maintient un taux de croissance économique au niveau mondial d'environ 4,5% dans les zones donc en développement, ce qui est à peu près ce qui a été constaté dans la décennie 2000-2010.
Oui, hein, puisqu'actuellement on est à 5-6% même en Afrique.
Qui n'est pas nécessairement soutenable dans tous les pays avec avec les évolutions actuelles, notamment des cours des matières premières, et notamment pour les pays africains. D'accord ? Et d'autre part, ce taux de croissance, dans les projections qui ont été réalisées, qui permettent d'éradiquer, ou tout au moins d'arriver à un taux de 3% seulement de pauvres à l'horizon 2030, d'accord ? Alors qu'on part à peu près à 15-20% à l'heure d'aujourd'hui. Les projections qui ont été faites supposent que les inégalités restent constantes. D'accord. Donc c'est un objectif intermédiaire d'une certaine façon. On suppose que les inégalités ne vont pas significativement se réduire, mais d'un autre côté, on suppose qu'elles ne vont pas augmenter. Or beaucoup de pays qui ont connu des croissances fortes, comme par exemple la Chine, tout simplement, ont aussi connu dans le même temps des augmentations des inégalités. Il a été rappelé aussi tout à l'heure que effectivement les pays qui bénéficient de ressources minières ou qui exploitent des ressources naturelles sont souvent beaucoup plus inégalitaires et ont beaucoup plus de mal éventuellement à réduire la pauvreté pour un même taux de croissance. Et ça c'est vrai aussi. Et donc, tout ça fait effectivement que cet objectif optimiste, pas invraisemblable, je dirais, va quand même être difficile à réaliser.
Difficile à réaliser, Cecilia Garcia-Peñalosa, à cause des inégalités ?
Oui, je suis d'accord avec l'évaluation que Denis vient de faire, soit par rapport au taux de croissance, dont je trouve les prévisions de la Banque mondiale excessivement optimistes, mais aussi par rapport aux inégalités et au niveau de redistribution. Et donc, je pense que là, la contribution la plus importante que les pays riches peuvent faire pour aider cette lutte contre la pauvreté, c'est précisément de mettre en évidence l'importance de la bataille pour la justice fiscale, soit au niveau des individus, soit au niveau des entreprises. Donc, et créer des accords, déjà au niveau européen, par exemple, pour une fiscalité des entreprises plus juste envers les grandes multinationales. Mettre en évidence l'importance que dans nos pays, la redistribution de revenus entre les individus a pour lutter contre la pauvreté, même dans un pays comme la France. Parce que je pense que dans les pays à bas revenus, la pression politique pour augmenter la redistribution et la justice fiscale va être énormément aidée des exemples internationaux qui poussent dans cette direction.
On va aller au Pakistan, qui est classé parmi les 50 pays les plus pauvres de la planète, avec des centaines de milliers d'enfants des rues, parmi eux beaucoup d'enfants de réfugiés afghans qui ont fui les différents conflits dans leur pays au cours des 30 dernières années. À Islamabad, la capitale pakistanaise, un centre accueille ces petits dans l'espoir de les réintégrer au système social et scolaire. Ce centre compte sur le talent des enfants eux-mêmes pour se financer. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Gaël Lucia Berdou à Islamabad.
Salma a 8 ans, mais elle hésite encore quand on lui demande de compter jusqu'à 20. Avec ses 14 frères et sœurs, son père et ses deux mamans, elle habite un petit bidonville juste à la sortie d'Islamabad, où des centaines de réfugiés afghans s'entassent dans des maisons en terre, sans eau ni électricité. Ses parents n'ont pas les moyens de l'envoyer à l'école. Mais depuis quelques semaines, Salma fréquente le centre de Let Us Be Kids. Deux salles de classe et une petite cour intérieure avec potager, où bénévoles et enseignants, comme Raïla Kawal, se relaient auprès des enfants du coin.
Aujourd'hui, nous avons récité des poèmes et révisé l'alphabet. Nous leur faisons aussi faire des activités pour leur montrer les bonnes manières.
Raïla fait la leçon, mais ce centre n'est pas une école, insiste sa fondatrice, Sarah Adil. Ici, les enfants jardinent, font de la musique et du dessin, et apprennent surtout le vivre ensemble.
La plupart des enfants que vous voyez ici, s'ils n'étaient pas là, ils seraient en train de faire les poubelles ou la manche. Si vous prenez un enfant qui passe ses journées à trier des déchets dans un dépotoir et que vous le mettez directement à l'école, il décrochera le lendemain. Il ne sait pas comment se comporter, parler aux gens. Il n'a pas l'habitude d'être dans un environnement propre. Donc il faut leur montrer l'importance de la propreté, comment parler sans agresser les autres, parce que c'est ce qu'ils connaissent de la rue. Et il faut les éloigner de tout ça.
Dans la pièce voisine, Farzana, 10 ans, visage rond sous un foulard noir, fabrique des colliers de perles. Pour compenser la perte de revenus des familles dont les enfants ne font plus la manche, Sarah recrute leur grande sœur et en fait des artisanes. À partir des dessins des enfants, elle produit aussi des calepins de notes, des cartes de souhait et des housses de coussin pour financer son projet.
Ce dont ces enfants ont besoin, c'est de dignité, pas de charité. Nous avons donc comme politique de ne pas accepter de dons. C'est cette volonté d'être autosuffisant qui nous démarque des autres ONG. C'est la seule façon d'aller loin.
Et il y a encore du chemin à faire. Deux mois après son ouverture, le centre est déjà plein. Pourtant, juste derrière ces murs, des dizaines d'enfants traînent encore dans la rue.
Alors, c'est un reportage émouvant. Instructif, mais est-ce que l'éradication de la pauvreté passe par des initiatives courageuses de ce genre, ou est-ce que cela suppose des mécanismes économiques beaucoup plus sophistiqués et massifs, Denis Cugnot?
D'une certaine façon, si on cherche à atteindre l'éradication, il faut effectivement des actions à grande échelle, nécessairement, mais elles sont pas incompatibles avec tout ce qui se passe à une échelle plus réduite, hein. Donc tous les efforts sont bienvenus, mais ce qui est certain, c'est que l'Afrique en particulier, qui va devoir produire le plus gros effort, va être confrontée à des défis très nombreux. Il a déjà été souligné le défi de la scolarisation universelle et le défi désormais de la qualité des services éducatifs produits, mais ce défi de la qualité va se poser également dans tout l'ensemble des services publics. On a parlé des questions de fiscalité qui sont aussi l'autre face à aborder, parce que c'est ça qui permet de financer ces services publics et de financer des services publics de qualité qui sont absolument indispensables aux pauvres. L'autre élément important, le ministre de l'Agriculture nigérian l'a rappelé tout à l'heure, c'est la question agricole, parce qu'une grande partie des pauvres en Afrique et partout dans le monde, on l'a vu aussi dans le cas de la Bolivie, sont encore à l'heure d'aujourd'hui des petits paysans, et le défi de l'avenir, notamment pour l'agriculture africaine, c'est aussi le changement climatique. Et donc on a aussi des difficultés qui s'annoncent pour cette période et qui vont être plus importantes, et des défis plus élevés que dans la période précédente. Or l'agriculture, en dépit des programmes qui sont menés à l'heure d'aujourd'hui et qui doivent encore être évalués, comme des programmes d'accès aux semences améliorées, comme des programmes d'accès aux intrants, il y a des très gros programmes à très grande échelle, au Nigeria certes, également au Malawi par exemple, mais ces programmes ne sont pas encore évalués, et tout ce qu'on peut voir à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore une agriculture africaine très extensive, reposant sur très peu d'irrigation, très peu d'engrais, et qui va probablement se confronter au changement climatique et à l'accroissement de la variabilité du climat.
Manon Aubry.
Je voudrais, pour enchaîner sur tout ce qui a été dit, que je partage très largement, sur voilà, on est tous relativement d'accord sur le constat, je pense, l'importance de notamment financer les services essentiels. Il y a de nombreuses initiatives qui sont très intéressantes, on a entendu au Sénégal, au Pakistan, etc., et qui sont à pousser. Mais derrière, si on veut un changement systématique, et j'aimerais dire même systémique, il faut derrière un investissement très important. Et aujourd'hui, la seule piste de réforme, c'est vraiment combler ce manque à gagner dont on parlait tout à l'heure, qui est un manque à gagner fiscal. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'embrayer sur qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qu'il faut faire, et sur les pistes de réforme que nous proposons à Oxfam pour adresser ce manque à gagner, ce qui est notamment dans la suite des objectifs du millénaire sur le développement. Il y a la discussion sur les objectifs sur le développement durable, donc le prochain paquet, je dirais, d'objectifs qui vont suivre. Et pour la première fois, il y a la conférence sur le financement de ces objectifs qui va se passer avant la conférence sur le contenu de ces objectifs. Ça va se passer à Addis Abeba en juillet prochain. Et à Addis Abeba, non seulement il est important que les États prennent cette conférence sérieusement et que la France et les autres États envoient des hauts représentants, mais qu'il y ait aussi ils prennent des mesures fermes et fortes sur la fiscalité. Et c'est pour ça que nous, on appelle à vraiment l'organisation d'un sommet fiscal international qui permettra et jettera les premières bases d'une réforme fiscale internationale sous l'égide notamment des Nations Unies et non de l'OCDE, comme c'est fait à l'heure actuelle, pour enfin que ça bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin, les États qui ont ce manque à gagner.
Cécilia Garcia-Pinalosa, je vais vous donner la parole pour le mot de la fin. Ça coûte très cher de lutter contre la pauvreté, ça va coûter très cher ?
Non, je crois pas. Je crois pas parce que beaucoup des actions, pas toutes, mais beaucoup des actions sont des actions comme celles que vous venez de mettre en évidence, mais aussi parce qu'il y a on peut avoir un cercle vertueux. Dans votre reportage, cette petite fille avait 14 frères et sœurs. Donc la fertilité est un problème énorme pour la pauvreté. La lutte contre l'absence d'éducation des femmes, contre la forte fertilité, est quelque chose qui n'est pas très cher, qui est facile à mettre en place et qui serait déjà un progrès énorme pour aider ceux qui sont au plus bas de l'échelle des revenus.
Eh bien, Écho d'ici, Écho d'ailleurs est maintenant terminé. Merci à vous tous d'y avoir participé. Cécilia Garcia-Pinalosa, Manon Aubry, Denis Cogno et Akinwumi Adesina qui est déjà parti. Cette émission était réalisée par Guillaume Munier à Paris avec le concours des techniciens de France Bleu à Aix-en-Provence. À la semaine prochaine.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.